Et c'est le début d'une série 2 de 3 ce soir, Jérémy Rainville.
Salut, Marie-Claude.
Salut.
Écoute, je ne sais pas comment voir cette série-là, puis c'est drôle parce qu'avant qu'on entre en onde,
oui, on jasait
de l'ampleur de cette série-là, comment on est en mesure de combler du temps parce qu'on a zéro information. Et je vous rappelle que Martin McGuire sera avec nous à 16h30 qui prendra le temps pour nous expliquer le petit peu qu'on a su de Claude Julien aujourd'hui, mais on ne sait pas s'il y aura des changements à l'alignement. On n'a aucune idée dans ce match numéro 3 si on verra des changements chez les Canadiens. Donc, on se disait, comment on arrive à combler ce temps-là quand on est dans le monde du sport? Et souvent, le sujet de conversation revient, c'est Carey Price. On se pose la question, comment il va le performer? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il sera à la hauteur des attentes? Et là, il faut comprendre que le directeur général des Penguins de Pittsburgh, M. Rutherford, a comparé Patrick Roy, Carey Price à Patrick Roy et Martin Brodeur. Donc, c'était les deux joueurs, on parle de joueurs au temps de la renommée.
Écoute, c'est Patrick Roy, là, regarde sa Coupe Stanley.
Et Coupe Stanley, et c'est deux fois avec le Canadien et deux fois avec l'Avalanche du Colorado. C'est un homme, Connie Smythe, c'est gigantesque, ça représente beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est un leurre, tout ça? Est-ce qu'on veut...
Oui, c'est peut-être juste pour endormir Carey, qui se dise, mon Dieu, hey, même le gars de l'équipe adverse me fait des compliments.
Pas convaincu qu'il...
J'espère qu'il n'est pas sensible à ça.
Non, je pense pas du tout. Je pense que c'est juste pour mettre peut-être encore un petit peu plus de pression sur Carey Price. Moi, je me pose la question, je me dis, puis j'en ai parlé hier aux amateurs de sport, c'est tu peux pas être aussi bon. Premièrement, je trouve ça dommage de voir un gars être aussi bon présentement et pas être appuyé par une équipe qui est à la hauteur du talent de ce gars-là.
C'est cette réalité du Canadien en ce moment.
Je trouve ça
dommage. Ça peut prendre des années avant que ça change.
Exactement. Je regarde les Hurricanes de la Caroline, je regarde l'alignement, le punch à l'attaque, la qualité des défenseurs et c'est Mrazek qui est là. Je me dis, si c'était un Price avec les Hurricanes de la Caroline, écoute, ça devient une dynastie.
Ouais.
Pendant 2-3 ans, ils sont capables d'être au moins en finale d'association. Évidemment, il y a toujours les blessures, je vais être réaliste. Là.
Ouais.
Mais on a quelque chose de solide qu'on n'a pas présentement chez Canadien.
C'est parce que les salaires sont comme très, très concentrés sur 2-3 joueurs. Puis après ça, ben qu'est-ce qu'on fait? Tu comprends?
C'est ça. Mais les Hurricanes, c'est différent. On a été 9 saisons consécutives sans faire les séries. Fait que donc, on a eu plusieurs choix repêchage.
Mais là, excuse-moi, je te parlais du Canadien.
Ben, c'est ça, mais on a bien repêché du côté des Hurricanes, ce qui n'a pas nécessairement été le cas chez les Canadiens de Montréal. Et là, on a ce manque de profondeur-là. Je veux pas être défaitiste, je veux être réaliste.
Non, mais beaucoup de jeunes.
Exactement. Je veux être réaliste et je me dis, est-ce que Carey Price pourra poursuivre sur ce qu'il a fait. Écoute, il y a aux alentours de 950 de pourcentage d'efficacité. Il a fait ça dans le match numéro 1, dans le match numéro 2. Peut-il faire ça dans le match numéro 3? Moi, je pense qu'à un moment donné, la chaîne va débarquer.
Moi, je le vois en train de méditer cet après-midi.
Ah oui?
Méditer, assis en indien, en train de respirer, puis de se dire, on reste calme.
Possible. Je pense
et
pas
puis
que
faire du
gars...
yoga, parce qu'écoute, il fait quasiment des splits, là.
Non, il fait pas quasiment, il fait des splits.
Il fait des splits, des grands écarts. Wow. Écoute, c'est très impressionnant de voir
mais
ça.
Comme je dis, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il sera pas capable de maintenir ce niveau d'excellence-là avec un club qui, dans les deux premiers matchs, nous a prouvé qu'il est capable de prendre beaucoup de pénalités. Il faudra arrêter dans le match de ce soir, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, l'avantage numérique des Pingouins va exploser, c'est sûr et certain.
C'est ça. Il faut qu'à la première période ce soir, ça ressemble à la dernière période d'avant-hier.
On n'a pas le choix. Il faut que ça soit pendant 3 périodes comme ça pour le Canadien.
Bon, et puis si on parlait d'autres sports, parce que tantôt Martin McGuire va nous parler.
Juste un petit résumé. Les Panthers de la Floride l'ont emporté 3-2 sur les Islanders de New York. Donc la série maintenant 2-1 en faveur des Islanders. Pageau a marqué pour New York. Et du côté des Panthers, Jonathan Huberdeau s'est blessé à la jambe droite, je pense. Oui, exactement, à la jambe droite.
Bas du corps.
Oui, mais on l'a vu sur la séquence, on l'a vu sur le banc. Là, j'essayais de figurer, de revoir visuellement c'est à quelle jambe. Je pense bien que c'est la jambe droite.
Je te taquine.
Oui. Au bas du corps à droite.
Ça
dit là. Donc, c'est blessé à la jambe droite. Il est revenu, OK? Il est revenu dans la rencontre, a fait 2-3 présences et par la suite n'a pas terminé le match. Donc, blessure pour Jonathan Huberdeau. Il y a un match en cours présentement. Les Prédateurs de Nashville affrontent les Coyotes de l'Arizona. Et là, on sait que cette série est égale 1-1. L'Arizona, elle est devant 1-0 après la première période. Dvorak a marqué son deuxième pour l'Arizona. À 16h, c'est le tournoi à la ronde qui se poursuit. Tampa Bay qui affronte Boston. Tampa, une victoire aucune défaite. C'est le contraire pour Boston qui n'a pas gagné son premier match. 18h30, Avalanche affronte les Stars et en soirée, évidemment, le duel entre les Pingouins de Pittsburgh et les Canadiens de Montréal. Je vous rappelle que le match est présenté sur l'ensemble du réseau Cogeco dès 19h30 pour l'émission d'avant-match.
Oui, le match donc à 20h.
Exact.
Et puis, on a appris cet après-midi, à notre grande surprise, que le match de vendredi sera à 16h.
Écoute...
Ce qui va affecter notre émission, je vous le dis tout de suite, le vendredi, l'émission va être écourtée considérablement.
Vous êtes les premiers à me l'annoncer parce que j'essaie de voir, je n'ai pas trouvé encore l'information, mais écoute, nous avons des bons contacts ici.
Je pense que oui.
98.5.
Pour un réseau qui diffuse les matchs, voilà, c'est pas mauvais qu'on le sache. Oui. Ligue junior de l'Ontario repousse à décembre le début de sa saison, alors que la Ligue de hockey junior majeur du Québec vise octobre.
Visait octobre. C'était le plan. Le mois d'octobre était le plan pour Gilles Courteau. Il était clair, net et précis. Nous voulons débuter au mois d'octobre. On sait hier que le plan de retour a été approuvé par la santé publique, ce que la presse nous apprenait. Donc, plan de retour approuvé par la santé publique. Sauf que là, les événements sportifs sont limités à 250 personnes. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourra survivre du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec 250 personnes dans les estrades? Ça, ça comprend les deux équipes, ça comprend le personnel. Ça laisse pas beaucoup de place aux spectateurs. Là, est-ce qu'on voudra aller chercher de l'aide gouvernementale? Est-ce que c'est une possibilité? Aller chercher un support financier de la part du gouvernement du Québec?
Est-ce qu'il y en aura?
Et du Canada? Oui. Et du Canada, il faut penser. Et du Canada, parce qu'il y a des provinces maritimes également dans la Ligue junior du Québec. Et là, on voit comment le gouvernement canadien négocie présentement avec la Ligue canadienne de football. On est prêt à prêter de l'argent. Ça coûte très cher. Il y a des frais administratifs également. Donc, on peut se questionner à savoir, est-ce qu'on arrivera à nos fins du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec?
Bon, eh bien, j'ai hâte de voir à quoi vont ressembler les premiers matchs dans la Ligue nationale de football, dans la NFL, parce que ça continue de se retirer du jeu.
Date limite, demain, 16h, pour ne pas jouer la prochaine saison sans avoir de pertes financières. Donc, il y a un quatrième joueur des Browns de Cleveland qui s'est retiré. C'est le garde offensif Colby Gossett. Mm-hmm. On est quatre maintenant du côté des Browns de Cleveland. Il y a un joueur des Dolphins également, Albert Wilson, qui quitte pour la saison 2020.
Allen Hurd hier.
Exactement. Donc, plusieurs joueurs qui émettent, je rappelle, Laurent Duvernay-Tardif qui a été le premier à déclarer officiellement qu'il ne sera pas de retour pour cette saison 2020.
Bon, et le patron de l'antidopage russe perd son boulot. On fait ça vite. Moi, j'ai tout de suite pensé à Icarus.
Ben, écoute, j'ai l'impression que c'est la suite des choses. Il faut juste dire que le gars s'appelle Louri Ganous. Okay? Lui, il est indépendant. C'est lui qui s'occupe du RASADA, qui est le grand chef de l'agence antidopage russe. Et lui, là, juste vous rappeler, là, son fait d'arme en 2019 a dit clairement que la Russie avait tenté de dissimuler, de camoufler des résultats de tests positifs sportifs russes. Et là, par le plus grand des hasards aujourd'hui, il a été limogé. Fait que donc, la situation, puis lui, était très clair. Quand tu essaies de limoger le directeur d'une agence comme la RUSADA et qu'on prouve que c'est de la malversation, eh bien, clairement, on pourrait avoir des conséquences négatives face à la Russie.
Ben, coudonc.
C'est la suite. Hein?
C'est ma conclusion. Merci beaucoup, Jérémy Réville. À tout à l'heure avec Martin McGuire pour parler du match de ce soir, 15h35. On s'arrête le temps d'une petite pause. Au retour, Valérie Roberts nous propose une entrevue avec Félix Diotte qui gagne le prix de la chanson Socante.